Politiquement Vôtre, le rendez-vous politique en Lorraine, Roger Kezel.
Bonjour, bienvenue dans Politiquement Vôtre, l'émission politique de RCF en Lorraine, une émission réalisée aujourd'hui par Michael Massé-Antonio. Ça va Michael ?
Ça va et vous Roger ?
Ça va très bien. À partir de cette semaine et jusqu'à la fin des élections présidentielles, nous avons fait le choix de ne plus inviter d'hommes et de femmes politiques, mais de consacrer nos émissions à une des thématiques économiques, sociales ou environnementales, ces thématiques qui sont ou devraient être traitées dans la campagne électorale. Nous le ferons sous un angle plus spécifiquement lorrain, c'est pourquoi nous consacrons dès cette semaine une émission au Grand-Duché de Luxembourg, ce Grand-Duché si loin et si proche dont nous allons parler maintenant avec Vincent Hein, économiste à la fondation IDEA. IDEA est une fondation luxembourgeoise créée et à l'initiative de la Chambre de commerce de Luxembourg et qui regroupe une équipe dynamique de chercheurs dirigée par Muriel Boucher. Nous les saluons tous au passage car ils font un travail remarquable. Tout cela étant dit, bonjour Vincent Hein.
Bonjour.
Avec vous, nous allons parler du Luxembourg, de son économie, de ses projets, des relations entre la Lorraine et ce pays voisin et ami. Et pour vous interroger, ma traditionnelle complice Arlette Perjean-Hatt qui va vous dresser le portrait, une habitude qu'elle n'a pas abandonnée malgré le changement de formule. Arlette.
Ah bah non, je n'ai pas abandonné, bien sûr.
Non, donc, toujours fidèle au poste.
Toujours fidèle au poste, toujours fidèle au portrait. Alors Vincent Hein, vous êtes né le 29 juin 1986 à Thionville. Vous êtes originaire de Manderen-Ritzin, c'est bien comme ça qu'on dit ?
Tout à fait.
Bien, je n'ose plus dire petite commune parce que Roger me reprend souvent en disant ce n'est pas une petite commune, donc je dirais commune, située à un jet de pierre de l'Allemagne et du Luxembourg. Alors quand une dame frontalière du Luxembourg rencontre un monsieur frontalier de l'Allemagne, on n'est pas du tout étonné que leur fils devienne un spécialiste des questions transfrontalières. Hein. Enfin, nous y reviendrons. Alors après votre baccalauréat économique et social, mention européenne, c'est presque une évidence, au lycée Hélène Boucher de Thionville. Vous entrez à l'université de Metz pour y étudier durant 5 ans les sciences économiques et vous avez complété vos études par un séjour Erasmus à Prague. À l'issue de ces études, vous obtenez un master en sciences économiques, spécialité développement local. Tout ça est bien cohérent. En 2009, vous entrez au Conseil économique et social de Lorraine comme chargé de mission. Vous y travaillez aux côtés de gens qu'on connaît bien, entre autres un certain Roger Kezel, qui était alors le président. Vous y resterez quelques années, le temps de vous faire apprécier et également de puiser dans cette expérience de quoi enrichir encore vos compétences. Alors depuis 2016, vous travaillez, comme le disait Roger il y a un instant, au Grand-Duché du Luxembourg comme économiste et depuis 2021, je crois, senior économiste, ce qui n'a rien à voir avec l'âge. Et vous êtes donc à IDEA, ce laboratoire d'idées créé par la Chambre de commerce du Grand-Duché. Vos travaux portent sur la recherche et le développement et surtout sur l'innovation et la coopération transfrontalière. Vous êtes aujourd'hui un des observateurs les plus pertinents des réalités de la grande région et bien sûr de celle du Luxembourg. Vous animez des débats, vous produisez des études dont l'intérêt n'est plus à démontrer. Alors votre parole et vos écrits sont de plus en plus appréciés et nous n'allons pas perdre une seule minute parce que les questions sont nombreuses, les sujets sont denses. Roger, je vous laisse lancer le premier sujet.
Merci Arlette. Vincent Hein, on va commencer par une question large et on entrera ensuite plus dans le détail. Comment on explique la dynamique luxembourgeoise dans la durée ? C'est-à-dire que le Luxembourg, depuis 20 ou 30 ans, se développe de manière très, très, très forte, presque exponentielle par moment, alors que la Lorraine stagne. Qu'est-ce qui se passe pour expliquer cette dichotomie ?
Alors, je crois que ce qui est important de rappeler pour commencer, quand on se pose ce genre de questions, c'est de savoir d'où on vient et d'où vient le Luxembourg. Et le Luxembourg et la Lorraine viennent du même point. Hein. Je pense qu'au milieu des années 70, la structure de l'économie, peut-être même aussi le niveau de richesse, a été les mêmes en fait, entre le Luxembourg et la Lorraine, notamment avec cette spécialisation dans la sidérurgie et les industries de l'acier et des matériaux. Je dois dire que l'écart de développement entre les deux tient quand même un petit peu, il faut le dire, à la chance. Le développement de la place financière du Luxembourg n'a pas été au départ une stratégie délibérée, montée de toutes pièces des décideurs économiques et politiques du pays. Elle s'est fait un peu par hasard. Au milieu des années 60, il y a des dispositions restrictives en matière de capitaux aux États-Unis et également en Allemagne, une taxe qui est, enfin, un genre de taxe qui est prélevé sur les dépôts par la Banque centrale allemande, qui fait qu'il y a des banques allemandes qui s'installent progressivement dans le pays, parce qu'à l'époque, le Luxembourg n'avait pas de banque centrale. Il n'avait pas toutes ces réglementations financières. Alors évidemment, il a su cultiver après, au fil des décennies cet avantage. Il a aussi bénéficié de la construction européenne, qui a été une vraie chance pour des petits États comme le Luxembourg, mais pas seulement pour le Luxembourg, de trouver des niches de spécialisation. Et ça, c'est quelque chose... la construction européenne doit énormément aussi, en plus du fait que le Luxembourg est une capitale européenne, donc qui crée des éléments d'attractivité supplémentaires, à tel point qu'on commence à avoir une dynamique, enfin, on a une dynamique de métropolisation, d'agglomération, avec des compétences très diverses, variées, complémentaires, qui font que, eh ben, une fois que c'est lancé, vous avez une économie qui, quelque part, il y a un travail très fort des autorités, il y a une anticipation stratégique, mais il y a aussi un phénomène de persistance dans le domaine.
Oui, justement, vous venez de lâcher le mot de métropolisation. C'est un mot que vous reprenez souvent et qui est bien une réalité dans le monde actuel, non seulement au niveau du Luxembourg ou de la France, mais dans le monde. Vous dites que l'ère économique du Luxembourg dépasse bien évidemment tout son territoire et les frontières, et que cela amène à la fois des avantages et des inconvénients. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ?
Oui, bien sûr. La métropolisation, c'est le fait de gagner en compétitivité du fait que les gens sont prêts les uns des autres. Hein. Donc, c'est tirer des avantages comparatifs et compétitifs de la proximité des gens. Donc, c'est tout ce qui est lié, on va dire, à l'informel. Ce développement métropolitain, il a des forces qu'on appelle centripètes, qui attirent, et des forces centrifuges, qui rejettent. Et c'est un phénomène sur lequel se structure une bonne partie de l'économie mondiale aujourd'hui, qui est similaire à certains égards au Luxembourg, même si le Luxembourg, c'est assez peu dense. Voilà, c'est pas, le Luxembourg, c'est pas Manhattan, c'est pas Londres, c'est pas Singapour. Mais c'est ce type de modèle qui prévaut quand même, je pense, et qui, comme vous le disiez très bien, et comme on l'étudie de plus en plus, dépasse largement les frontières. Aujourd'hui, le Luxembourg, c'est 600 000 habitants, mais si on compte cette aire métropolitaine, on s'approche des 2 millions d'habitants, en fait. Et les avantages et les inconvénients sont très nombreux, évidemment, les phénomènes de ségrégation, d'inégalité.
On va y revenir. Arlette a raison de poser cette question, qui est une question assez centrale et sur laquelle on reviendra. Vous avez fait un rapport sur le récent, là, vous faites ça, un tableau économique et social. IDEA fait ça très régulièrement. Comment se porte l'économie luxembourgeoise maintenant, là, en février 2022?
Oui, effectivement, on suit beaucoup la conjoncture aussi. Hein, chez IDEA, en plus des grands sujets de fond, on a renforcé ce suivi de la conjoncture avec l'arrivée de la crise liée à la pandémie. Début 2022, franchement, le Luxembourg, son économie se porte très bien. Je crois qu'on a retrouvé notre niveau d'avant-crise beaucoup plus rapidement que la moyenne des autres pays européens. J'ai regardé les statistiques récemment. L'emploi au Luxembourg, le marché du travail, a retrouvé une dynamique très, très forte. En 2021, le pays a créé 15 000 emplois. Sur ces 15 000 emplois, il y en a un peu plus de 8 000 qui sont des frontaliers. Donc, on est revenu sur des taux de création qui sont très proches des niveaux d'avant-crise. Luxembourg est le seul pays de l'Union européenne, je pense peut-être avec un autre petit pays, je ne sais plus lequel, mais qui, même en 2020, alors qu'on avait tous ces confinements très durs, a continué à créer des emplois. Aujourd'hui, on est revenu au niveau de chômage d'avant-crise. On est même un tout petit peu en dessous. On a les finances publiques qui sont revenues à l'équilibre. Donc, s'il y a un mot, c'est résilience.
Il y a des points faibles quand même dans ce développement économique là, où vraiment tous les voyants sont ouverts, comme disait Raymond Barre.
Ah, sur le plan de la conjoncture, évidemment, on a les mêmes soucis qu'on a à l'international. On a des craintes sur l'inflation, on a des craintes sur les difficultés de recrutement. C'est exacerbé hein, dans les métiers qui sont présents au Luxembourg. Il y a des problématiques de fond aussi. Bah, on dépend quand on est dépendant d'une place financière. C'est évident que le risque de retournement de la situation sur les marchés financiers, ça vous fait un peu plus peur que dans des régions qui sont plus basées sur l'industrie, par exemple. Donc, il y a quand même des choses à surveiller. Et puis, il y a évidemment toutes les contraintes, si on se projette, liées à la capacité du territoire à continuer à être attractif, à se développer sur le long terme. Ça, c'est des vraies questions.
Nous sommes avec Vincent Rhein, économiste à la Fondation IDEA, et Arlette Pergent a une nouvelle question à vous poser.
Oui, ben, on est en plein dedans, en fait. Hein. Vous parlez de la crise, donc on parle de... la crise sanitaire, comment est-ce que le Luxembourg a géré ça?
Alors, sur le plan sanitaire, pour simplifier, pour ne pas rentrer trop dans les détails, pour se comparer à la France, globalement, sur le plan sanitaire, on a géré à peu près de la même manière. Il y a des petites différences. D'accord. On a eu un peu plus rapidement à l'époque des tests, peut-être un peu plus facilement des masques aussi. C'est lié au fait qu'on a beaucoup de cargo entre la Chine et le Luxembourg, avec l'entreprise Cargolux notamment, mais pas seulement. On a, sur le plan maintenant du choc que ça a représenté au début, on était ici dans le Grand Est très concernés par la pandémie, on avait très peur aussi, mais je crois qu'au Luxembourg, il faut bien se rendre compte à quel point le sentiment de vulnérabilité du pays s'est manifesté assez brutalement, soudainement et très fortement. C'est-à-dire que quand vous avez une immense majorité des personnels soignants qui vivent dans les pays voisins, des risques de fermeture des frontières, voire même des fermetures de frontières, ça a été notamment le cas avec l'Allemagne au début, vous vous rendez compte à quel point vous êtes vulnérable. Et vous pouvez être un pays très dynamique et très riche. Et il y a eu cette crainte, ça c'est très clair.
Et dépendant quand même, finalement.
Totalement dépendant. Et je pense que là, c'est un des aspects dans les sujets sur les relations transfrontalières. Je crois, s'il reste encore aujourd'hui une personne au Luxembourg qui n'a pas compris que l'interdépendance, ça valait pour des dépendances dans les deux sens, hein, c'est qu'elle a vraiment pas suivi cette crise. Donc là, il y a ça, clairement. Après, le Luxembourg s'en est bien tiré par la suite parce qu'il y a eu une excellente coopération avec les pays voisins qui ont permis le télétravail, qui ont permis la mobilité des frontaliers quand c'était nécessaire. Et le fait que l'économie luxembourgeoise soit basée sur des emplois qui sont largement télétravaillables a été un avantage dans cette
bien
crise.
Sûr. Les vaccins, on vaccine beaucoup. Les Luxembourgeois se laissent vacciner, j'allais dire.
Je pense, oui, c'est exactement comme ça qu'on dit.
Il y a eu quelques manifestations.
À la marge, je pense que le taux de vaccination est un peu plus faible qu'il l'est en France. Il y a une acceptabilité du vaccin qui est à peu près la même qu'en France, je pense, avec aussi des mouvements qui contestent les mesures qui sont prises. Il faut savoir que le débat qu'il y a en France sur le pass vaccinal a été tranché un peu plus tôt au Luxembourg, où aujourd'hui il y a l'équivalent, avec le Covid check, l'équivalent d'un pass vaccinal, y compris pour se rendre sur son lieu de travail. Donc,
vous qui travaillez au Luxembourg, oui. Je pense que vous ne le faites pas tous les jours, mais il faut que vous présentiez votre passe vaccinal à l'entrée de la Fondation UDA.
Oui, et les entreprises se sont organisées. Ça a été d'ailleurs très complexe en matière d'organisation. Ça représentait un coût important, à tel point qu'il y a des entreprises qui ont décidé de mettre tout le monde en télétravail parce que c'était compliqué à mettre en œuvre. Mais on a le droit de tenir des listes de personnes vaccinées. Donc, dans la loi, il y a quand même eu des facilités qui ont été prévues qui font que, globalement, pour les personnes vaccinées, ça ne change pas grand-chose.
Vincent, je voudrais revenir sur une question qu'Arlette a abordée déjà tout à l'heure, mais qui est une question effectivement centrale. Le Luxembourg fait appel à beaucoup de main-d'œuvre étrangère. C'est d'ailleurs le moteur, le carburant de son développement. Est-ce que ça peut tenir indéfiniment, ce truc-là?
Alors, nous, quand on réfléchit à l'avenir du Luxembourg,
oui, vous travaillez beaucoup sur ces questions.
Et on est en train de faire un grand exercice de prospective, on va dire, éco-territoriale, où on prend des projections, des scénarios économiques fil de l'eau, et on dit, voilà, en gros, comment on pourrait avoir un Luxembourg à 1 million d'habitants en 2050. Je pense qu'il faut quand même dire que, pour caricaturer les choses, les 100 000 emplois qui vont être créés dans les prochaines années, si on a la chance qu'ils soient créés, vont être plus compliqués à accueillir que les 100 000 derniers. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce de... J'ai un peu le sentiment qu'on a un peu tapé dans les réserves.
Oui, ça s'essouffle, le système, si j'ose dire, commence à s'essouffler, parce qu'on dit ça depuis quand même des années. Moi, je me souviens que Pierre Dap, il y a 20 ans, nous disait que c'était impossible de continuer comme ça.
Alors, une des raisons pour lesquelles c'est plus compliqué aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup pensé ça par le passé. C'est-à-dire qu'on a systématiquement sous-estimé les projections démographiques parce que faire des projections démographiques au Luxembourg, en gros, ça revient à faire un pari sur l'avenir économique du pays parce que 80% de la population est tirée par l'immigration qui elle-même est tirée par le développement économique. Donc, ce qui fait que le développement qui s'est produit s'est fait de manière moins organisée, moins harmonieuse et peut-être un tout petit peu plus anarchique que ça l'aurait été si on s'était vraiment préparé. Et il faut se préparer. Et ça veut dire que sur le plan territorial, il va falloir s'organiser bien mieux pour permettre la poursuite du développement économique si la bonne fortune économique se maintenait.
Voilà, Vincent, je voudrais qu'on aborde une question qu'on a déjà un petit peu abordée tout à l'heure. C'est l'impact du développement luxembourgeois sur la Lorraine. Alors, il y a un débat est-ce que ce développement qui est très puissant du Luxembourg profite ou non aux régions voisines, et notamment aux régions qui sont les régions du Nord Lorrain. Et on va écouter Daniel Matergia, qui est le président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut, que nous avions eu d'ailleurs à Politiquement Vôtre, et qui va expliquer une partie de ses difficultés.
Parce qu'à partir de 30% de travailleurs frontaliers, il y a des vrais impacts sur les territoires. Accueil de nouveaux habitants, pression sur le foncier, demande de consommation de terres agricoles pour continuer à accueillir les nouveaux habitants, mais pas seulement. Problème de circulation, ça, c'est endémique, hein, tout le monde le sait. Et les problèmes de circulation qui sont propres aux travailleurs frontaliers, pendulaires, aujourd'hui contrarient aussi les déplacements des habitants qui ne travaillent pas au Luxembourg. C'est la prise en compte de l'impact de l'accueil résidentiel et de l'économie résidentielle des populations qui sont à 90% destinées à aller travailler au Luxembourg ne sont, à mon avis, pas suffisamment prises en compte par le Grand-Duché, qui devrait aussi s'intéresser à la qualité d'accueil de ces populations.
Daniel Matergia, président de la communauté de communes Cœur du Pays Haut à Audun-le-Roman. Vous partagez ce point de vue, Vincent ?
Alors moi, ce que je partage, c'est que dans le débat sur les implications qu'a ce modèle de développement économique et territorial sur la région transfrontalière, il faut absolument mettre en avant à la fois les avantages et les inconvénients que cela représente pour le Luxembourg et pour les territoires frontaliers. Là, c'est si vous voulez, dans ce tableau à double entrée que je dessine là, avantages, inconvénients, territoire frontalier, Luxembourg, on vient de faire une seule case. On a parlé des problématiques, des inconvénients que cela représente pour les territoires frontaliers. Nous, on réfléchit beaucoup à ces questions-là et on pense, enfin, ma conviction personnelle, c'est qu'il y a un énorme travail d'acculturation, d'appropriation des effets à la fois positifs et négatifs qu'a ce modèle, à la fois que les Luxembourgeois comprennent ce qu'il se passe en Lorraine et que les Lorrains comprennent ce qu'il se passe au Luxembourg. Parce qu'il y a aussi des vulnérabilités pour le Luxembourg. Quelques exemples, les avantages, évidemment, c'est les revenus des frontaliers, c'est le fait qu'on a trouvé un relais démographique absolument formidable. On n'est pas là dans des territoires où on ferme des écoles, comme on peut le voir parfois dans les journaux, dans certaines anciennes régions industrielles ou rurales en France. On a un dynamisme immobilier. Alors, on parle de problèmes sur les prix de l'immobilier, mais quand les prix de l'immobilier augmentent dans un territoire où vous avez plus de 70% de propriétaires, c'est aussi un niveau de capital qui augmente. C'est aussi des recettes fiscales pour les communes. C'est-à-dire que le fait que des frontaliers arrivent dans les communes, ça génère aussi des recettes fiscales. Il y a le fait qu'on externalise quelque part la politique de lutte contre le chômage, et ça, c'est aussi un coût, c'est aussi une opportunité en matière de coût pour les dépenses publiques côté français. Et puis, il y a les inconvénients hein, que vient de lister le responsable local dont on vient d'entendre le témoignage, qui sont réels. Il y a ça, un coût en service, il y a la pression foncière, ça diminue l'attractivité pour les entreprises parce qu'il y a un phénomène de concurrence du centre de la métropole. Il y a l'image de cité dortoir qui n'est pas forcément très intéressante pour développer un territoire. Il y a le fait que dans ce territoire-là, le fait qu'on est dans un schéma où vous avez des élus locaux très atomisés, on va dire, et très nombreux, qui doivent dialoguer avec un État souverain, membre de l'Union européenne. Et ça, c'est complexe aussi.
Donc c'est plus équilibré qu'il y paraît, mais vous plaidez pour qu'on mette un petit peu ça, qu'on mette un peu tout ça à plat.
En fait, il faut mettre à plat, il faut comprendre. Et il faut aussi comprendre du côté transfrontalier, du côté lorrain, du côté belge, du côté allemand, que ce modèle, c'est aussi une source de vulnérabilité et de soucis pour le Luxembourg. Quand vous avez des revenus importants qui sortent du pays, quand vous avez peut-être très probablement dans les décennies qui viennent des montants considérables de pensions, parce que le système de pension luxembourgeois est très généreux, qui vont sortir du pays, qui ne pourront pas être réinjectés dans l'économie locale. C'est une source de vulnérabilité macroéconomique très complexe et très, très importante sur le long terme. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il faut, comme vous le dites, mettre les choses à plat.
L'idée, c'est un peu de comprendre les deux logiques. Chaque pays, chaque territoire a sa logique et l'idée, c'est qu'elles se rencontrent un peu. Vous aviez formulé des propositions sur ce sujet en travaillant au niveau du bassin d'emploi luxembourgeois.
Oui, effectivement. Comme on le disait en début d'émission, le modèle, une grosse partie du modèle luxembourgeois repose sur le fait qu'il y a une métropole transfrontalière. Et le fait qu'il y ait cette interdépendance à la capacité des territoires voisins à attirer des habitants de l'extérieur fait que c'est aussi dans l'intérêt du Luxembourg, et je regarde ça de manière très froide, au-delà des questions sur la solidarité, la coopération, etc., de manière très froide, le Luxembourg a intérêt à ce que ces territoires se développent plus que le gouvernement français, par exemple. Donc ça, partant de ce modèle-là, nous, on plaide en tant que comme stratégie de développement du Luxembourg, parmi les piliers de cette stratégie de développement, il y a tout un tas d'autres mesures qu'il faut prendre, évidemment, pour rester compétitif. Pour ne pas injurer l'avenir économique du Luxembourg, il va falloir mieux structurer cette métropole pour qu'elle soit plus fluide, plus cohérente, plus durable, plus attractive. Et en partant d'un raisonnement un petit peu froid, économique, on peut et on va aboutir à terme à créer une culture de coopération, de sentiment d'appartenance. Et là, c'est plus le travail des politiques et d'autres personnes.
On y reviendra à la deuxième partie de l'émission, parce qu'on n'en est quand même encore pas tout à fait là. Vous savez qu'il y a une tradition que vous connaissez bien, puisque vous êtes déjà venu dans notre émission, qui fait que notre invité choisit la pause musicale que nous allons diffuser. Vous avez choisi
Le Boss.
Le Boss. He's a crown of mango trees I pulled up by the sun got down on my knees, grabbed my pen and bowed my head. Tried to summon all that my heart finds true and send it in my letter to you. Stars and the morning sky of blue, and I sent it in my letter to you, and I sent it in my letter to you.
Politiquement vôtre, le rendez-vous politique en Lorraine, Roger Kezel.
avec Vincent Hein, économiste à la Fondation luxembourgeoise IDEA. Nous parlons du Luxembourg et nous allons parler de ceux qui y travaillent.
Ah oui, on va parler des frontaliers, bien évidemment. Ils sont 110 000, je crois. Alors, leur motivation, bien évidemment, la première chose qu'on va dire, salaire. Mais il n'y a pas d'autre motivation à cela ?
Si, évidemment, bah, les frontaliers, ce n'est pas un bloc homogène. Hein, ils ont tous une trajectoire professionnelle. Enfin, il y a plusieurs types de trajectoires professionnelles chez les frontaliers. Il y a évidemment les salaires attractifs. Ça, c'est évidemment un critère qui compte. Je pense qu'il est au moins à égalité avec le simple... En tout cas, pour les personnes qui sont vraiment originaires de la région, mon analyse et certaines enquêtes le montrent.
Rappelez-nous le montant du SMIC.
Le salaire social minimum qualifié, il est autour de 2200 euros. Mais c'est 40 heures le travail au Luxembourg, donc évidemment si on rapporte ça au nombre d'heures
d'accord.
passées dans les bouchons, certains peuvent faire le calcul aussi. Hein.
Ah, bien sûr.
Mais je pense qu'un des critères très importants également qui se situe peu ou prou au niveau du critère salarial, c'est notamment pour les frontaliers issus de la région, c'est la simple existence des emplois en fait. Je crois que c'est pas négligeable comme critère, la capacité de trouver un emploi qui correspond à son niveau d'études, parce qu'on parle sans cesse de déclassement, de choses de ce type. Si vous sortez avec un diplôme universitaire en économie, en droit, en Lorraine, bah, vous n'êtes pas forcément obligé de quitter votre région et vous pouvez occuper un emploi au Luxembourg. Et ça, c'est quand même un critère assez important aussi. Et puis, il y a l'attractivité, le caractère métropolitain, international.
Il s'y passe quelque chose au Luxembourg. Il y a ce sentiment-là, ça joue un peu quand même.
C'est quand même une petite métropole. Hein,
c'est la capitale à deux pas, quoi.
Ben c'est un peu ça, quelque part, c'est la capitale, avec aussi quand même la culture locale qu'on partage de nos côtés des frontières. Et c'est pas inintéressant comme mélange.
On a fait une réunion avec quelques frontaliers la semaine dernière à Thionville, et j'étais surpris par les témoignages de frontaliers qui nous disaient qu'ils étaient bien accueillis par les entreprises luxembourgeoises.
Bien sûr, bah, les entreprises luxembourgeoises ont intérêt à bien accueillir leurs salariés.
Mais beaucoup moins sélectives à l'entrée. Enfin, bon, par exemple, des gens d'origine étrangère, etc., se disaient qu'ils étaient mieux accueillis, que ça paraissait moins fermé qu'en France.
Je ne suis pas un spécialiste du management, mais je pense qu'on peut quand même témoigner sur le fait que le critère lié à la compétence réelle et aussi au savoir-vivre, au savoir-être de la personne compte un peu plus que le diplôme au Luxembourg, ça c'est vrai.
Alors la plupart les frontaliers par définition ne logent pas au Luxembourg. Est-ce qu'on peut loger au Luxembourg ? C'est la question oui. que vous voulez vous poser, Arlène.
Ah bah oui, parce que le logement au Luxembourg, c'est quand même, c'est j'allais dire, effrayant pour les gens qui... Bah de toute façon, les frontaliers, je pense, se logent rarement au Luxembourg. C'est pratiquement impossible de s'installer là-bas. D'autant que je pense que les propriétaires fonciers ont vu leur patrimoine augmenter.
Alors oui. Vous travaillez aussi beaucoup là-dessus.
On va publier bientôt un document de travail assez complet sur à la fois l'histoire du problème du logement au Luxembourg, hein, en remontant même au 19e siècle pour être précis. Et sur les solutions qu'on pourrait apporter. Et surtout, qu'est-ce qu'on vise en matière de politique de logement. C'est très complexe. Hein.
C'est très complexe.
Le fait que les prix du logement ont fortement augmenté, voire explosé depuis 2017-2018, ça a aussi, dans un pays où le taux de propriétaires reste, a même augmenté sur les dernières décennies, hein, avec une immigration très forte, avec un desserrement des ménages, hein, la diminution de la taille des ménages, avoir maintenu un taux de propriétaires autour de 70%, c'est quand même un petit miracle aussi. Et c'est
absolument.
Quelque part aussi un succès parce que la hausse des prix immobiliers, mais c'est vrai aussi pour le côté français où les prix immobiliers montent beaucoup, c'est quelque chose dont on peut se plaindre, notamment quand on cherche à accéder à la propriété, mais c'est aussi quelque chose qui fait que votre patrimoine augmente. Ça
Bien
fait
sûr.
Beaucoup de petites fortunes. Ça a fait quelques grosses fortunes, mais ça aussi fait beaucoup de petites fortunes. Et alors, ça fait une belle jambe de dire ça pour ceux qui cherchent à rentrer
Bien
sur le marché du logement, qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui ont un petit bout de terrain ou un appartement à leur... Alors, et donc, du coup, on va faire des propositions hein, pour ça. Et le fait qu'il n'y a pas la culture du locatif social au Luxembourg, c'est probablement un des axes, c'est pas le seul, mais c'est probablement un des axes qui permettrait de loger ces personnes qui sont un peu de passage quelque part dans le pays.
Oui. Ça aggrave la fracture sociale ?
Comme partout. Je pense qu'à Metz, les prix ont beaucoup augmenté aussi ces dernières années. Y a des métropoles très dynamiques, très riches, des places financières en Europe ou dans le monde où la fracture sociale est peut-être un peu plus grave qu'au Luxembourg, qui est quand même une économie avec un modèle social très fort, très redistributif, mais effectivement, l'inégalité de patrimoine, c'est un sujet au Luxembourg.
Alors, les personnes qui logent au Luxembourg et qui ne sont pas luxembourgeois, ils sont nombreux et qui travaillent. Peut-être nous rappeler pour nos auditeurs la structuration du salariat luxembourgeois, au Luxembourg plutôt.
La structuration des personnes qui vivent au Luxembourg, le Luxembourg, c'est pas tout à fait la moitié d'étrangers en termes de nationalité, dont là-dedans, on compte parmi les personnes de nationalité luxembourgeoise pas mal de monde qui a la double nationalité. Donc en réalité, les personnes qui ont un background migratoire, c'est au Luxembourg plus des deux tiers de la population. Donc ça, il faut pas
l'oublier. C'est exceptionnel en Europe, ça.
C'est exceptionnel, et puis c'est encore un des endroits en Europe où ça se passe plutôt bien, parce qu'on a aussi construit une forme de consensus, parce que les Luxembourgeois ont une forme de protection implicite de l'État dans le secteur public, ce qui pose des problèmes d'ailleurs, parce qu'on a du mal à recruter dans les entreprises privées de jeunes luxembourgeois, puisqu'ils vont travailler dans les communes, les entreprises publiques.
Et ça, c'est pas une légende, ça, c'est plutôt vrai, ils sont plutôt dans le public.
Oui, les statistiques le montrent très clairement, effectivement. Et puis l'autre avantage qui, à mon sens, fait que le modèle luxembourgeois de très forte croissance est plutôt accepté, c'est le fait que, justement, les familles luxembourgeoises ont réussi à se créer un patrimoine avec la hausse d'immobilier. Donc, ce n'est pas qu'un problème. C'est un problème, mais ce n'est pas qu'un problème. Oui.
Alors, est-ce que la stratégie luxembourgeoise aujourd'hui, c'est de garder un nombre important de frontaliers, voire de le faire augmenter, c'est ce qu'on entend souvent dire, ou de faire venir plus de gens sur leur territoire? Et est-ce que c'est possible de faire venir plus de gens sur le territoire luxembourgeois? Ils sont 650 000 aujourd'hui au Luxembourg, habitants. Ils peuvent monter jusqu'à 1 million, comme le disent certains.
La trajectoire file de l'eau.
Si rien ne change par ailleurs. Comme
voilà, si rien ne change par ailleurs, si on continue ce développement sur le plan économique, parce que c'est ça qui tire la démographie, au Luxembourg, très clairement. Ça ne veut pas dire que ce sera politique inchangée, hein, parce que, comme je vous le dis, on a quand même épuisé certaines réserves. Hein. Il va falloir maintenant trouver un nouveau modèle plus équilibré, y compris sur le plan de l'urbanisme, développer des villes secondaires, etc. Je ne sais pas s'il y a de stratégie réelle de dire il faut faire bouger le curseur entre parmi ces... En gros, il faut tous les ans 10 000 travailleurs étrangers supplémentaires. Parmi ces 10 000 travailleurs étrangers supplémentaires, il y a une partie qui va s'installer au Luxembourg, une partie qui va s'installer dans la grande région. Le curseur, actuellement, c'est à peu près 50-50. Hein, vous avez à peu près 5 000 nouveaux frontaliers, 5 000 nouveaux immigrés. Mais ces immigrés viennent avec une famille, avec des enfants parfois... Donc du coup, moi je pense que le fait que la croissance de l'emploi a été pour grande partie développée, pour grande partie assumée par des frontaliers, c'est quelque part une chance parce que ça permet au modèle luxembourgeois sur le plan du logement, du foncier, de souffler un peu quand même. Hein. Donc je pense que ce serait pas stratégique pour le gouvernement de dire il va falloir que tous ces frontaliers viennent vivre au Luxembourg. Et d'ailleurs, on se rendrait compte que ça coûte des sous en matière d'argent public, hein, en matière d'équipement scolaire, oui, etc. Donc ça prouve quand même que...
Ces fameux équipements que nous, on prend en charge quand même d'une certaine manière, Vincent.
Oui, et effectivement, côté français, côté belge et côté luxembourg et côté allemand, mais aussi avec des revenus qui partent. Donc vous voyez, c'est une question, il y a beaucoup d'argent public qui sort de Luxembourg aussi.
Alors, justement, vous parlez d'emploi. Il y a un pan du travail qui a été mis en évidence par le Covid, justement, c'est le télétravail, l'émergence du télétravail, ses avantages aussi. Et je crois savoir que vous militez plus ou moins pour une extension ou une plus grande habitude du télétravail, parce que vous y trouvez beaucoup d'avantages. Vous y voyez même, j'ai cru comprendre que vous y voyez même un biais pour une fiscalité plus juste.
Oui, c'est un phénomène. Le fait que dans une région transfrontalière, on développe davantage le télétravail va créer des phénomènes de réallocation. C'est-à-dire que les dépenses des salariés, les jours de télétravail vont se faire sur le territoire français, par exemple. Je prends l'exemple de Metz ici. Donc c'est aussi une opportunité pour rééquilibrer d'une certaine manière l'impact économique positif que peut avoir le Luxembourg sur les régions voisines. Il y a un problème aussi, si le télétravail devient un mode d'attractivité plus important à l'avenir et que les métropoles s'organisent là-dessus, sur ces questions-là pour attirer des talents, on va avoir un problème au Luxembourg parce que on ne va pas pouvoir faire bénéficier, au-delà des plafonds prévus par la Sécurité sociale notamment, du télétravail aux personnes qui ne vivraient pas dans le pays. Donc il y aurait une forme de, quelque part, de discrimination. Si vous pouvez venir travailler à Paris, habiter en Normandie, Très facilement, vous n'avez pas ces seuils, sûr. Alors que ça va être plus compliqué de venir vivre à Metz pour travailler au Luxembourg. Donc, il va falloir réfléchir à ça.
Ouais. Aujourd'hui, un travailleur frontalier, il peut travailler combien de jours par semaine chez lui, par exemple, vous-même, vous faites ça souvent. On travaille combien de jours? Un jour par semaine?
Alors, toutes ces limites ont été...
Que disent les textes,
oui. Il faut dire que ces limites, elles ont sauté avec le Covid. Hein,
bien sûr.
C'est ce qui fait aussi que les gouvernements étrangers ont permis au Luxembourg de poursuivre son activité économique normale, même si c'était en mode dégradé, et c'était aussi une source de vulnérabilité. Bon, il y a plusieurs plafonds, c'est un peu technique. Il y a le plafond de la fiscalité, où quand vous dépassez un certain nombre de jours, vous payez les impôts pour les jours que vous dépassez dans le pays où vous vivez, et pas dans le pays où vous travaillez. Pour les frontaliers français, si je résume, ça ne change pas grand-chose. C'est des tracasseries administratives considérable, y compris pour les entrepreneurs luxembourgeois qui vont devoir faire la retenue à la source française. Donc là, il y a vraiment des débats sur comment l'administration fiscale gère ça. C'est pour la France, en tout cas, c'est pas un problème. Enfin, pour le frontalier français, c'est pas vraiment un problème. Il payera peut-être même, dans certains cas de figure, moins d'impôts s'il paye ses impôts en France. Parce qu'on paye pas mal d'impôts au Luxembourg et l'impôt est très progressif au Luxembourg. En revanche, il y a un autre plafond qui a été mis en place dans les années 2000 par l'Europe. C'est un règlement européen qui fait que pour être affilié à la sécurité sociale d'un pays, il faut y travailler au minimum 75% du temps. Donc en fait, le vrai plafond, c'est 25%. Parce que si vous dépassez les 25%, vous perdez l'affiliation à la sécurité sociale, ce qui veut dire que votre employeur doit payer les cotisations sociales en France et vous perdez les droits à la retraite, les allocations familiales. Et ça, c'est un plafond, je ne vois pas comment on peut le faire bouger parce qu'il est aussi là pour de bonnes raisons, notamment pour des raisons de concurrence déloyale en matière de travail détaché. Pas seulement, mais je résume, mais en gros, c'est là-dessus que ça va se jouer.
Donc, on ne dépassera pas le plafond de 25%. C'est déjà pas mal,
25%. En train et deux jours par semaine.
Deux jours par semaine, quasiment, non?
Ça peut commencer à être agréable pour souffler en matière de transport.
En matière de transport, ouais. Justement, oui.
Oui, oui, oui. Et puis, ça pourrait permettre, mais ce n'est pas la solution miracle, mais c'est un des éléments qui ferait que la croissance de l'emploi serait un peu plus facile à digérer dans les années à venir.
On va évoquer les partenariats entre la France et le Luxembourg, la façon dont on discute les uns les autres entre nous, c'est-à-dire entre les Luxembourgeois et les Français. Et on va entendre un point de vue luxembourgeois, c'est celui de Daniel Codello, qui est responsable des relations transfrontalières à la Hesse-sur-Alzette, qui est un habitué aussi de RCF que nous entendons souvent. On va écouter ce qu'il dit un peu, je vais poser la question de savoir comment il voyait les relations avec la France.
Honnêtement, donc, le fonctionnement administratif en France n'est pas des plus simples. On parle vraiment du millefeuille administratif, n'est pas toujours très facile, étant donné que certainement avec les élections, vous avez toujours de nouveaux interlocuteurs qui ne connaissent pas trop le projet depuis le début. Une décentralisation en disant donner plus d'autonomie aux collectivités locales, ce serait un avantage pour le fonctionnement d'un GECT.
Est-ce que vous avez été associé à Hesse-sur-Alzette à la conférence intergouvernementale qui a eu lieu il y a quelques semaines entre la France et le Luxembourg?
Nous étions très honorés que la conférence intergouvernementale se faisait à Belleval. Nous étions contents, mais nous n'étions en tant que ville pas associés aux travaux. Ce qui est un peu déplorable, ensemble, notre maire, il a discuté avec d'autres maires français, notamment le maire de Metz, qui voit ça d'un œil un peu plus critique. Et parce que souvent, les conclusions d'une conférence intergouvernementale, ce sont les communes, les villes qui subissent les conséquences, surtout les questions de mobilité ou d'autres questions, notamment au niveau de la coopération de la santé. Et les communes du côté français et du côté luxembourgeois veulent être impliquées plus dans le suivi des conclusions de la conférence intergouvernementale.
Alors c'est une question très complexe, Vincent Hein. Est-ce qu'on est suffisamment organisé?
À l'évidence, je crois que...
Il va être content, Codello.
Il y a une forme de consensus quand même pour dire que c'est compliqué de trouver des interlocuteurs, que ce soit du côté français de la frontière, mais aussi du côté luxembourgeois. C'est vraiment compliqué pour les personnes qui ont la charge de développer des projets de coopération transfrontalière, de trouver le bon interlocuteur. Et il n'y a pas qu'un pays, hein, il y a quatre pays, dont un où il y a deux lenders. Donc c'est vraiment un...
On a l'impression qu'ils ont moins de mal avec la Belgique.
En tout cas, c'est compliqué à dire. Vraiment, la structuration des collectivités publiques belges est différente, mais elle est aussi assez complexe. Mais j'ai l'impression que le dialogue, effectivement, est un peu plus souple entre le Luxembourg et la Belgique.
On cite souvent l'exemple du Grand Genève, où On dit à Genève, entre Genève et Annemasse, il se passe vraiment des choses et nous, on arrive moins bien. Est-ce qu'on peut avancer dans cette direction-là?
C'est quelque chose qu'on regarde beaucoup aussi, le Grand Genève. Y a plein de caractéristiques qui font qu'a priori, c'est un territoire qui se développe mieux. Mais moi, je pense que si on doit résumer, si on doit en retenir une, c'est le fait que le Grand Genève a eu à un moment, pour plein de raisons, hein, des raisons de politique fédérale, mais aussi cantonale, a eu un projet de territoire. Et je pense que si on n'a pas un projet d'agglomération, si on n'a pas un projet pour cette métropole et qu'on n'arrive pas à mettre... à ce cavalier sans tête une gouvernance, on n'arrivera pas à résoudre tous ces problèmes et on pourra débattre pendant très longtemps encore de savoir si c'est le président du conseil départemental, communal ou que sais-je qui
alors,
doit...
Projet chez nous, projet au Luxembourg et ensuite regroupement un peu des projets. Vous militez beaucoup pour ça à IDEA.
Oui, effectivement. Moi, je pense qu'une des manières d'aborder le sujet, notamment des questions de péréquation financière, c'est de les mettre au service d'un projet, au service d'un projet dont on doit discuter avec des priorités. La logique de l'appel à projet pour les collectivités territoriales, par exemple, ça me semble être une bonne amorce.
Je suis en négociation avec Michael Massé-Antonio qui veut nous faire arrêter plus tôt que prévu, mais maintenant, on ne peut pas éluder la traditionnelle question d'Arlette, la question qui tue.
Alors, ma question, Vincent Heim, je crois que vous vivez à Metz.
Oui, effectivement.
Oui. Vous travaillez au Luxembourg et vous connaissez le Luxembourg par cœur. Par cœur, il semblerait un peu les rouages. L'économie, c'est sûr, et le Luxembourg en tant que tel. Je voulais savoir si vous vous sentiez luxembourgeois. Est-ce que vous vous sentez biculturel? Et est-ce que vous êtes tenté par vivre au Luxembourg à 100%?
Ah, alors, c'est une question très complexe assez personnelle aussi.
Bah oui, aussi, c'est le but.
C'est le principe, hein.
Non, c'est évident que le multiculturalisme, clairement, c'est quelque chose qui me qualifie et qui qualifie, je pense, pas mal de frontaliers. On s'intéresse forcément, et il y a des enquêtes médias qui l'ont montré d'ailleurs, les frontaliers s'intéressent aussi à l'actualité au Luxembourg, hein, notamment par le biais de presse gratuite, de choses de ce type. Oui, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, donc il faut qu'on comprenne la culture de l'autre. C'est vrai que, vu de Lorraine, je suis parfois défenseur des intérêts luxembourgeois, et peut-être que certains au Luxembourg pensent que je suis défenseur des intérêts de la Lorraine, en réalité.
Un pied de chaque côté.
Oui, voilà, mais je pense que ça colle quand même à une réalité et à une stratégie qui pourrait être gagnante, en fait. On pourrait... Y a rien ne dit que dans cette métropole, ça, c'est quelque chose d'important. Si un territoire va bien, l'autre doit aller mal. Je pense qu'on peut avoir,
bien sûr.
Et ça c'est vraiment quelque chose de fondamental, on peut avoir une ambition partagée pour que des deux côtés de la frontière, on ait du développement économique et une prospérité économique et sociale, et que ce sera bénéfique pour tous. Et c'est pas une question de valeur, c'est une question de stratégie.
Eh bien, on va terminer sur cette belle conclusion prospective, et en espérant que on continue à avancer sur le sujet. Merci Vincent Heim, économiste à IDEA, la Fondation luxembourgeoise que nous connaissons bien, qui fait un énorme travail. C'est la fin de Politiquement Vôtre. Vous pourrez réécouter cette émission sur le site de RCF. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission à thème. Et cette fois-ci, nous parlerons de la politique pénitentiaire dans notre pays. Un sujet très différent de ceux que nous avons abordé aujourd'hui. Merci Vincent, à bientôt.
Merci beaucoup.